fer au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
I want to break free.
Aussi, Freddy, en ce jeudi 24 novembre, j'aimerais être libre, j'aimerais me libérer, mais rien n'est simple a priori dans notre société en 2016. Il faut dire que nous avons aussi de chouettes politiques. Monsieur Fillon semble bien placé dans cette course à la présidentielle. Nous pourrions rappeler bien de ses déclarations, mais j'ai retenu ce soir celle-ci, celle du 28 août dernier, lors d'un rassemblement à Sablé-sur-Sarthe. Il nous expliquait la première condition du redressement national, elle est dans le respect du passé, dans l'acceptation de l'histoire, dans la reconnaissance des vrais héros qui ont fait notre patrie. Respect et acceptation, révérence et ferme ta gueule, c'est un peu plutôt ça son idée. L'histoire, elle est torturée pour s'adapter aux fantasmes de nos politiques. Des théories scientifiques, l'histoire sont utilisées hein, par ces politiques. Et c'est le cas par exemple de l'origine des espèces de Charles Darwin qui a été publié le 24 novembre, c'était en 1859. Alors aujourd'hui sa théorie elle est détournée par des groupes religieux, par des groupes sectaires. Certains essayent de trouver la moelle pour leur discours identitaire. Et puis d'autres s'en servent pour essayer de casser le mythe Charles Darwin. Par exemple, certains et certaines se sont attaqués à Darwin en faisant le théoricien de l'infériorité naturelle des femmes. Alors Darwin, à son époque, je vous rappelle, hein, c'était une autre époque quand même, le 19e siècle, Darwin analyse effectivement en termes évolutifs, puis historiques, l'infériorité des femmes. Mais en fait, il analyse d'un côté statutaire hein, par rapport à leur place dans la société. Lui, il voit dans l'éducation un moyen d'égalité pour les femmes. Et puis, il a une conception aussi particulière dont nous pourrions débattre dans un autre Canu Info. Il a la conviction que les femmes ont une forme d'instinct social qui serait donc l'amour maternel. Et en fait, Charles Darwin va placer dans cet amour maternel l'espoir de l'évolution affective et éthique de l'humanité. Donc en fait, il place ses espoirs dans les femmes. Malheureusement, il faut bien le dire, pour les femmes, ça n'a pas trop changé. Alors certes, aujourd'hui, on peut voter, hein, youpi youpi. On peut conduire, en tout cas ici, chez nous, en France, re-youpi youpi. Pourtant, aujourd'hui, des hommes nous prennent toujours pour des défouloirs, des objets, des punching balls. Nous devons toujours être belles, cligner des cils et accepter d'être sous-payées, exploitées. Alors demain est organisée une manifestation non mixte contre les violences faites aux femmes. On est en 2016, rendons-nous compte quand même de ce que ça signifie d'être aujourd'hui dans la rue. Alors certes, on peut l'être. On notera aussi ce jeudi qu'à la majorité, 479 voix pour, 37 voix contre et 107 abstentions. 107 abstentions quand même. Une résolution demande l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul. Le Parlement européen espère ainsi renforcer les mesures afin de mieux protéger les femmes victimes de violences et puis de combattre les agresseurs. Le Parlement européen espère aussi obliger tous les États à s'engager dans cette lutte. Alors, ça a quand même fait sourire un petit peu aujourd'hui, la Convention d'Istanbul. Istanbul, où un gouvernement a souhaité que les auteurs d'agressions sexuelles puissent épouser leurs victimes hein, et ainsi ne pas être jugés condamnés. Donc c'est un petit peu amer quand même hein, comme situation. Heureusement, les femmes sont descendues dans la rue et ont réussi à faire pour l'instant échouer ce projet. Alors c'est vrai que la parole des femmes se libère, les femmes s'unissent aussi. Mais vous aussi les hommes, hein, vous avez peut-être le pouvoir pouvoir et l'argent, en tout cas vous êtes mieux payé que nous, paraît-il. Mais au fond, vous êtes cantonné dans votre rôle de mâle, d'où la nécessité peut-être pour vous de vous intéresser à la deuxième partie de cette soirée du rassemblement, c'est-à-dire qu'il y a un rassemblement mixte après la première partie non mixte. Peut-être, vous pouvez vous y intéresser quand même, vous messieurs. Quant à l'homophobie, on arrive à se demander si à un moment dans notre histoire contemporaine, nous avons eu des jours meilleurs et que nous n'avons pas été confrontés constamment à cette homophobie. Y a-t-il eu une période dorée, ou plutôt arc-en-ciel? Quand on voit les réactions suite à cette campagne de prévention contre le VIH, nous y reviendrons, on se dit que nos luttes n'ont jamais été finies et que nous faisons toujours face à plus de violence. Et puis, vous l'avez vu, nous avons commencé par un petit hommage, puisque ce jeudi 24 novembre est aussi le jour anniversaire de la mort de Freddie Mercury, qui est décédé le 24 novembre 1991. Alors, c'était aussi pour moi tout un symbole, Freddie Mercury. Je vous rappelle qu'il est mort des suites d'une pneumonie. Il avait déclaré la veille qu'il était porteur du VIH. Freddie Mercury, bisexuel, a été l'objet de nombreuses critiques pour ne pas avoir évoqué publiquement sa maladie, pour ne pas avoir raconté publiquement sa vie amoureuse, surtout sexuelle, c'est ça qui intéressait aussi les médias. Il a été critiqué pour ne pas s'être mis en avant parce qu'il était une star. Il faut quand même se souvenir que Freddie Mercury, il a fait sa carrière dans les années 70 et 80. Et aujourd'hui, en 2016, certains et certaines sont encore obligés de faire un coming out, parfois l'air un peu contrit, il faut le dire. Donc non, nous, on ne reprochera pas à Freddie Mercury dans cette émission de ne pas s'être mis en avant, c'est sa vie. Il faut se rendre compte que sa bisexualité lui a tiré même après sa mort, la colère des intégristes, des conservateurs religieux. Aujourd'hui encore, il serait traité de dégénéré, de tarlouse. Pourtant, moi je pense, je ne sais pas ce que tu en penses toi Laurent, mais que sa mort en avait touché plus d'un et plus d'une. Et pas juste des groupies musicaux, mais bien tous ceux et toutes celles qui voyaient aussi dans cet artiste la possibilité de bouger son corps, de le montrer, de l'exposer, d'être sous la lumière en étant bi. Et en étant adulé des hétéros mâles, malgré tout, pour sa musique et puis pour sa voix et sa présence sur scène. Freddie Mercury a un mélange des genres sans complexe. Et oui, il faut quand même bien le dire, Lady Gaga n'a rien inventé.
Alors, justement, pour faire le lien avec Freddie Mercury, qui est mort d'une pneumonie, mais qui est issu, enfin, qui a été consécutive à son sida. On va faire un point sur le sida en Russie aujourd'hui et ça peut nous amener à imaginer ce que pourrait être la situation du sida en France après 2017, c'est-à-dire après la victoire d'un intégriste, que ce soit Fillon, Marine Le Pen ou autre. Alors c'est un article qui est extrait de Gazeta.ru, un site russe traduit par Courrier International. Donc c'est en fait le maire d'Ekaterinbourg, ça se situe dans l'Oural, qui en fait fait une démarche pour parler du sida parce qu'il est relativement inquiet. Il a vérifié que dans sa ville d'Ekaterinbourg, il y a un habitant sur 50 qui est porteur du VIH, ce qui est énorme. Donc il y a une véritable épidémie dont la propagation est aujourd'hui plus rapide que l'Afrique. L'Afrique qui est souvent stigmatisée sur le sida et surtout la progression du sida en Afrique. Donc voilà, la question qui se pose, est-ce que l'État russe fait quelque chose, combat la progression du sida autrement que par l'éducation morale et religieuse. Alors d'après le maire d'Ekaterinbourg, il s'appelle Evgeny Roizman, l'épidémie qu'il a observée dans sa ville, qu'il a mesurée, eh ben, il y a la même chose dans toute la Russie. C'est pas simplement dans sa ville. D'ailleurs, on estime qu'il y a 1 million de séropositifs en Russie et que depuis cette triste année, la Russie est devenue le pays connaissant la plus importante épidémie de VIH au monde dans sa progression, en fait pas dans le nombre de malades actuels mais dans le nombre d'accroissement du nombre de malades. Alors c'est un rapport de l'ONU-SIDA hein, qui avait parlé. L'ONU-SIDA, c'est l'agence de l'ONU qui s'occupe de la prévention du SIDA. Donc ils ont calculé effectivement que le taux de nouvelles personnes contaminées, c'est-à-dire nouveaux séropositifs, supérieur à la majorité des pays d'Afrique, hein, souvent ceux qui sont pointés du droit, hein, comme le Zimbabwe, le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et plein d'autres. Finalement, il n'y a que le Nigeria qui est devant la Russie sur la progression du nombre de malades. Alors certes, les pays d'Afrique ont des fois plus de malades, mais là on parle de la progression, ce qui est très très inquiétant. D'ailleurs, les experts de l'ONU-SIDA attribuent cette situation à deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu une disparition des programmes internationaux en Russie, et la Russie n'a pas mis en place, soit par manque de moyens, soit par volonté, de nouveaux programmes de prévention. Et surtout, ce qui est le plus terrible, c'est que la Russie a décidé de mettre en avant, dans la lutte contre le sida et contre plein d'autres choses, les valeurs religieuses, typiquement russes, c'est-à-dire on explique que c'est l'abstinence qui est importante et qu'il n'y a que l'abstinence qui protège du sida. Et on sait que ça ne marche pas. Donc voilà, en plus ils considèrent comme, alors c'est l'évêché des orthodoxes, là, enfin l'église orthodoxe qui le dit, qui considère les malades du sida qui sont, alors c'est vrai, ils disent c'est essentiellement des homosexuels et des drogués. Et ils expliquent, bah, c'est normal, c'est une punition divine. Ce qu'on avait dans les années 80, hein, dans pas mal de pays où on avait l'extrême droite qui sortait ce genre de propos. Alors, d'abord, c'est relativement faux, parce que même si les homosexuels et les toxicomanes, ceux qui notamment speak, sont évidemment confrontés au sida, il y a aussi et c'est les femmes, enfin, c'est dans les chiffres, c'est les femmes mariées qui n'ont pas d'aventure, qui sont les plus contaminées aujourd'hui dans le monde par leur mari. Donc, le discours de l'Église est allié à Poutine et à ses amis au pouvoir est un discours fondé sur le mensonge. En plus, en Russie, il y a énormément de discrimination face aux porteurs du VIH et face, bien évidemment, aux homosexuels, hein, puisque les militants... parce que, alors, aujourd'hui, la seule prévention qui est faite sur le virus du sida, ce sont les malades eux-mêmes qui la font. C'est pas l'État qui le fait, quasiment pas. Donc voilà, on en est à une situation qui est ultra critique pour ce pays qui est quand même énorme en termes de population et du coup énorme en termes de personnes contaminées. Alors, on rappelle d'ailleurs que l'Église orthodoxe russe considère les politiques traditionnelles telles que celles mises en place en Occident et qui sont d'ailleurs plutôt efficaces, qui ont d'ailleurs beaucoup reculé ces dernières années, et c'est pour ça qu'on a un retour d'ailleurs des contaminations avec le virus du sida. Ils considèrent, eux, que tout ce qui est éducation sexuelle et contraception, c'est du prosélytisme à la débauche, hein, pour citer un propos d'un pope. Donc ça fait un petit peu peur, et c'est la seule politique officielle de l'État russe sur la contamination. Pour terminer ce petit article, pour le résumé de ce petit article, suite à cet article-là et à la déclaration du maire d'Ekaterinbourg sur son inquiétude face à l'augmentation des contaminés au VIH, il a eu une réponse de la présidente du comité de la Douma, donc le Parlement russe, donc c'est qui est responsable de la partie famille, femmes et enfants, et elle a déclaré qu'il fallait de toute urgence, je cite, revoir l'éducation morale et spirituelle des concitoyens. Donc la seule solution aujourd'hui, imaginée par les Russes, pour lutter contre le sida, mais aussi contre toutes les maladies sexuellement transmissibles, puisque le sida, c'est que ce qu'on met en avant, parce que c'est une maladie qui est très mortelle. Surtout qu'il y a peu d'accès, moins d'accès au traitement en Russie. Hein, l'espérance de vie, c'est 35 ans en Russie pour un malade du sida. En Europe, c'est presque aujourd'hui équivalente à un non-malade, pour les personnes traitées. Donc voilà, la seule réaction, c'est une fois de plus l'éducation morale et spirituelle. Et tout ça nous laisse à penser que ça pourrait être pareil en France, puisqu'on a, tu en as parlé tout à l'heure, de cette campagne d'affichage qu'on a vu apparaître dans nos rues, que je n'ai bien évidemment pas trouvée choquante du tout, dont le but de cette campagne d'affichage est de sensibiliser. Alors, ils font des campagnes ciblées dans les campagnes d'affichage parce que c'est plus efficace. Donc là, ils ont ciblé les homosexuels. Donc, ils mettent en avant des couples homosexuels, des personnes qui ont des relations homosexuelles et notamment des relations d'un soir, en rappelant voilà qu'il faut utiliser le préservatif, etc. Cette campagne qui est plutôt intelligente, hein, moi je trouve, et qui rappelle effectivement les risques importants qu'il y a de ne pas se protéger, a énervé une dizaine d'élus républicains, donc notamment le maire d'Aulnay-sous-Bois, et on sait que Fillon est sur cette ligne-là, et ça pourrait effectivement, après 2017, entraîner une situation en France qui pourrait ressembler petit à petit à celle de la Russie, c'est-à-dire qu'on abandonne les campagnes de prévention, parce que ça choque les intégristes religieux que sont ces élus républicains, et on aurait une explosion du nombre de contaminés. Alors, suite à ces élus, les républicains qui ont retiré les affiches parce qu'ils ont été, je cite, choqués, ils les ont trouvés inappropriés et que c'était une incitative à l'homosexualité. Alors ça, mais enfin, il faut quand même être demeuré religieux intégriste ou élu républicain
ou tout ça à la fois,
ou tout ça à la fois, pour croire que quand on est hétéro et qu'on voit une affiche homo, on va devenir homo. Hein. On rappelle que c'est plus compliqué que ça, les choix sexuels et les orientations sexuelles, que c'est un truc qu'on ressent ou qu'on ressent pas, et c'est pas forcément de voir une affiche. Par contre, ça peut déclencher sur ceux qui se posaient des questions à un moment, ça peut-être, en tout cas ceux qui seraient pas, à qui on parlerait jamais d'homosexualité, c'est-à-dire les personnes qui seraient jamais à l'écoute de la radio, de la télé, qui seraient dans une campagne perdue où il n'y a pas d'accès.
Oui,
à quoi
mais
que
même
ce soit.
Tu sais, il suffit d'être dans une famille avec des préceptes particuliers aussi pour ne pas parfois se poser
oui,
de questions.
C'est
voilà, c'est tout simple.
Bon, mais en dehors de ce cas-là, ça n'incite à rien du tout, si ce n'est. Bah si, utiliser du préservatif et se protéger. Alors il y a eu une question posée à l'Assemblée, enfin au gouvernement dans la séance du mercredi là, à l'Assemblée, vous avez déjà assisté à ça, ou des fois ça part en pugilat. Donc c'est la députée socialiste Marie Le Verne qui s'est emparée du sujet et qui a dénoncé les réactions puritaines et homophobes de ses élus. Elle a d'ailleurs rappelé que 150 000 personnes étaient séropositives en France, donc quand même beaucoup d'homosexuels, et que la campagne, elle avait donc tout son sens, cette campagne de sensibilisation. Voilà, Marisol Touraine d'ailleurs, qui est la ministre en charge, a réagi et a décidé de porter plainte contre ses maires au tribunal administratif. Donc voilà, il y a un vrai retour de l'ordre moral porté par presque tous les candidats. Hein, quand on regarde un petit peu, à part les socialistes et la gauche, c'est très très inquiétant. Et alors, dans le deuxième sujet, on en aura même trois ce soir hein, sur lié à tout ça. Le deuxième, c'est sur l'IVG. Il s'est passé un truc.
J'aurais pu le placer tout de suite.
Ah oui, t'aurais pu le placer.
Hein, alors on va le faire tout de suite.
Ouais.
Voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'Union de cette semaine, précisément l'édition de Châlons en Champagne datée de ce mercredi. La rédaction s'est carrément agacée, énervée des commentaires de ses lecteurs sur son site internet et a décidé dans l'édition papier de reproduire sur une page avec un titre 2016, l'homosexualité dérange toujours, une petite sélection de commentaires homophobes laissés donc par les internautes. Alors il faut savoir que dimanche, des journalistes de l'Union constate qu'une vingtaine d'affiches de la campagne ont été taguées. Ils en font un article tout bête, hein, ils rapportent les faits. Lundi, la rédaction décide de pousser le papier un peu plus loin parce qu'ils trouvaient que c'était honteux d'avoir ce genre d'acte en 2016. Et mardi, la rédaction publie un papier intitulé « 5 raisons d'avoir honte » et s'adresse aux auteurs des dégradations de la campagne. Là-dessus, une ribambelle de commentaires sont apparus, des commentaires graveleux et homophobes, comme l'explique l'Union. C'est vrai que c'est tout à fait croustillant. Alors, la rédaction explique parfaitement assumer. C'est très bien que ce n'est pas politiquement correct. mais que ces commentaires, ils existent et qu'ils se devaient à la rédaction de rapporter ces déclarations. Alors, ils se sont aussi, ils et elles se sont posé la question de savoir s'ils avaient le droit de publier, mais tout ça, c'est public. Hein. Ils n'ont fait que retranscrire les propos visibles publiquement. C'est assez simple. Alors, par exemple, nous avons Geoffrey Sucker, qui, avec sa jolie petite photo, nous explique tout simplement Tarlouze. Hein. Nous avons Jean-Louis Aubertin. J'imagine un matin le gosse qui voit son père arriver à poil dans la cuisine et qui lui dit « Maman, on a une plus grosse que la tienne, pauvre France », parce qu'évidemment la France, ça, toujours, c'est toujours très très important. Alors il y en a qui a choisi un pseudo, Mac Dundee. Dundee, vous vous souvenez, c'est cet abruti des films australiens avec les crocodiles, l'espèce de chasseur. Lui, c'est simple aussi, il nous explique que c'est des détraqués mentaux. D'autres expliquent en fait, ils ne vont pas trop s'exprimer parce que la démocratie en France leur empêche de s'exprimer. Voilà, donc c'est une ribambelle de commentaires. Moi, je trouve que c'est une belle réaction de la part de cette rédaction d'avoir publié ces propos, déjà d'avoir montré leur agacement, leur énervement et leur colère, et puis d'avoir laissé les photos. Bah, alors parfois c'est que des photos d'illustration, mais parfois c'est la vraie tronche de ces hommes. Il y a quelques femmes au milieu, et puis d'avoir mis leur nom. Ça aussi, je trouve que c'est important. Les gens publient des choses sur les réseaux sociaux, publient des choses sur les commentaires des presses en ligne. Bah, maintenant, il faut les assumer. Voilà, c'était plutôt, je trouvais, plutôt bien.
Alors, pour revenir sur l'IVG, toujours dans les choses réactionnaires, et qui se profile à l'horizon, ça a eu lieu en fait mercredi matin, dans une séance qui a débuté comme les autres, une séance de la Commission des Affaires Sociales. Les députés examinent la proposition de loi, on en avait déjà parlé, de la loi socialiste relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Alors ça commence à 9h34. Normalement. La socialiste Catherine Coutel, qui est la présidente de la délégation aux droits des femmes, présente le texte donc de la proposition de loi qui vise les fameux sites d'information sur l'IVG, qui sont présentés comme des sites d'information sur l'IVG, mais qui sont en fait des sites anti-IVG. Et les femmes, les jeunes femmes, se font vraiment piéger par ce genre de sites qui sont tenus par des religieux intégristes. Ça réexplique d'où est issue cette nouvelle loi. Ces sites induisent délibérément en erreur, font peur, enfin il y a des pressions psychologiques, enfin c'est assez atroce. Donc elle rappelle que le choix de recourir à l'IVG, c'est pas une expression d'une opinion personnelle, comme elle le dit, mais c'est bien un problème de choix, de liberté. Voilà, alors ça commence comme ça, ça commence à s'agiter. Et puis d'un seul coup, ça s'agite de plus en plus. L'orateur du groupe PS, qui est Alain Ballet, prend la parole. Il commence à dire, je cite, « Il est presque inquiétant de voir que les sujets, notamment sur la remise en cause de l'IVG, puissent revenir. Certains hommes politiques revenir sur ce, et là, paf, ça hurle dans tous les sens, il est coupé, ça hurle, et il est insulté. La séance s'arrête à 9h42, bon, grosso modo, 10 minutes, ça a duré, c'est pas mal quand même, 10 minutes avant que des élus républicains bloquent le fonctionnement de la commission et insultent Alain Ballet. C'est le cas notamment de Denis Jacquat, qui est donc élu Les Républicains, qui va traiter de con et de connard l'orateur du groupe PS. Alors la séance va reprendre tant bien que mal, et le député Jean-Pierre Door va s'exprimer au nom des Républicains pour dire parler de l'IVG aujourd'hui, c'est une calomnie parce que c'est une manipulation politique, laissant entendre qu'en fait, ce qui est en train de faire le PS, c'est instrumentaliser cette commission des affaires sociales pour qu'elle s'incruste dans le débat de la primaire, puisqu'effectivement, c'est un des thèmes qui est ressorti suite à la victoire de Fillon dimanche dernier. Or, c'est de la manipulation pure, parce qu'en fait l'histoire du retour de cette question dans la commission des affaires sociales, elle est issue d'un vote au Sénat, porté par une majorité de droite, qui a utilisé une procédure qu'on utilise très peu pour bloquer le délit d'entrave qui était dans le projet de loi. Et comme ils ont bloqué ce délit d'entrave, il a fallu réunir cette commission des affaires sociales pour débloquer les choses. Donc c'est issu de quelque chose qui date d'avant le premier tour de la primaire et qui a été porté par les élus, les Républicains. Donc c'est pas du tout une instrumentalisation de cette commission des affaires sociales pour s'immiscer dans le débat à la primaire des Républicains et de leurs idées réactionnaires. Donc voilà. Bon, bref, ça a mis du temps et au bout du compte, ils sont arrivés à adopter un amendement, l'amendement de Catherine Coutel, qui réaffirme que voilà, c'est un délit de pratiquer par des moyens de communication électronique ou en ligne d'induire en erreur les personnes, et un délit d'entrave qui pour les gens qui le pratiquent risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Donc ouf, c'est passé, mais de justesse. Et la question qui se pose là aussi, eh ben, en 2017, si Fillon ou Le Pen sont présidents, qu'est-ce qui va se passer? Et ben c'est mal parti pour l'IVG, c'est mal parti pour les homos, c'est mal parti pour le social, c'est mal parti pour tout, hein. C'est mal parti tout court. Et on va rester du coup dans la réaction, hein, dans ces élus réactionnaires et qui utilisent la religion et qui sont d'ailleurs croyants intégristes, pour parler de ce qui s'est passé samedi dernier à Lyon, puisque il y avait une manifestation Place Colbert, des cathos intégristes. Tu vas revenir dessus et les décrire. Moi, je vais décrire juste ce qui s'est passé au début, puisque j'y étais au tout début. Ils manifestaient, ils priaient même. Il y avait un orateur à un moment qui demandait donc de récupérer l'église qui se situe juste au-dessus de la Place Colbert. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le préfet a interdit le rassemblement, ça, sur la place Colbert, parce qu'il s'est dit c'est l'endroit où il y a quand même des antifas et des militants d'extrême gauche. Venir faire une manif chez eux en étant d'extrême droite, c'est quand même la porte ouverte à ce que ça se passe mal. Et il avait pas tort. Sauf que, bien évidemment, ils sont venus quand même et que les flics les ont laissés s'installer petit à petit, un par un. Ils ont contrôlé personne, ils les ont laissés venir. Et une fois qu'ils étaient là, ils les ont protégés, ils ont refusé de les éjecter. Pas les antifas hein, qui étaient ne parlaient pas aux flics, mais pas mal d'habitants du quartier sont allés parler aux policiers en leur disant mais comment ça se fait qu'ils sont là, pourquoi vous les autorisez? Et il y a eu des réponses absolument incroyables de la part de la gente policière qui justifiait la présence des petits fachos et de leurs amis cathos, hein, parce qu'ils étaient venus main dans la main et plus peut-être si affinités. Notamment, on a quelqu'un du quartier qui a posé la question sur parce qu'ils étaient venus armés, hein, armés, alors de parapluies, bien évidemment, un peu renforcés, et de casques. Et les flics répondaient mais ils sont non, ils ont des casques parce qu'ils sont tous venus à moto. Enfin, voilà, des choses comme ça. On a eu quand même des propos assez incroyables. Et ça a dégénéré et les flics ont séparé et ont repoussé quand même pas mal les antifas, mais aussi les autres. Et quand on leur demandait, mais vous savez, quand ils viennent dans le quartier, ils reviennent après, le soir. Qu'est-ce que vous allez faire? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, Delphine?
Rien.
Eh ben voilà.
Précisément, c'est pas qu'ils m'ont dit qu'ils allaient rien faire, c'est qu'ils ont pas voulu me répondre. Je suis pas la seule à avoir posé la question, hein. On est allé voir les représentants de la préfecture, hein. Certains sont allés parler directement aux flics. On rappellera, si vous nous écoutez du Québec, que la place Colbert se situe dans le premier arrondissement, sur le haut des pentes de la Croix-Rousse, donc dans le quartier de la radio. C'est aussi pour ça qu'on y est particulièrement attaché à ce qui s'y passe. Comme tu le disais, les groupes sont arrivés. Alors on a vu arriver des petites dames habillées en gris qui priaient et chantaient déjà, hein, avant même d'arriver sur la place Colbert. Tout ça à l'appel de madame Nicole Hugon, présidente de l'association Les Amis du Bon Pasteur et de Saint-Bernard-de-Lyon. Une dame qui s'est fait connaître dans d'autres villes avec exactement les mêmes procédures pour récupérer des lieux dits catholiques et religieux pour leur groupe.
Voilà, elle est proche du FN, enfin elle est dans le FN, elle s'est présentée aux élections sous la couleur du FN. Voilà, c'est une vraie militante catho d'extrême droite traditionnelle.
On pourrait tout de suite ajouter que Nous ne sommes pas favorables au projet de Monsieur Gérard Collomb, oui. Qui veut faire un lieu d'affaires pour les start-up en plein cœur des pentes de la Croix-Rousse. Nous, on n'aime pas ce projet, mais on ne veut pas pour autant le faire redevenir un lieu de culte. Et en tout cas, ça nous a pas bien plu que des gens viennent se positionner comme ça sur cette place Colbert, alors que les familles et des petites dames viennent prier, c'était une chose. Y voir flotter les drapeaux du Vatican et les drapeaux avec le cœur de Jésus, espoir et salut de la France, ça c'était quand même autre chose. Et puis il faut se rendre compte aussi de l'atmosphère, c'est-à-dire que toi tu es effectivement arrivé avant moi sur place. Ce qui est intéressant, c'est que les petits fachos étaient partout dans les rues autour de la place Colbert. Et lorsque un groupe d'antifa est arrivé, il y a eu un grand rassemblement, ils se sont positionnés au cœur de la place Colbert. Les flics se sont casqués, équipés et se sont installés aussi au centre, entre les deux parties,
Et grosso modo pour protéger les fachos.
Oui, puisque dès 14h30, au mégaphone, on avait pu entendre les discours très paisibles, ma foi, j'y mets beaucoup de guillemets et je souris jaune, pour appeler donc à la reconnaissance de ce lieu comme un lieu catholique à préserver. Tout de suite, l'alerte a été donnée dans le quartier, l'information a circulé. Le bar de la place Colbert avait fermé ses portes, ça c'était des conseils de vigilance qui avaient été transmis les jours précédents. Mais c'est vrai, comme tu le disais, la manif s'est poursuivie.
Ils ont viré les habitants qui jouaient aux boules.
Tout à fait. Les gens se sont fait.
Alors, ils ne les ont pas virés manu militari, mais ils se sont mis là où ils jouaient, du coup, ils ne pouvaient plus jouer.
Non, ils ont eu la chance de tomber sur des gens qui finalement étaient assez peaceful, il faut le dire quand même, et qui ont pris ça. Plutôt à la rigolade et bon, c'était des gens très partisans de notre bord, on va l'en dire, mais voilà, ils l'ont pris plutôt très peaceful, donc ça s'est bien passé. Moi j'ai aussi noté que du côté des opposants, c'est-à-dire de notre bord, nous sommes restés très calmes. Moi j'aurais bien aimé venir peut-être avec ma sono et de passer du punk, je vous le dis très sincèrement, mais le but c'était pas non plus de mettre le feu à la place. Il y a des habitants aussi autour. L'idée c'était aussi de penser à la plume noire juste à côté rue Diderot, donc doucement il y a un chant des canuts qui est parti du côté des habitants, qui a été suivi par des chants révolutionnaires. Les flics ont commencé à nous pousser aussi, nous, les habitants de la place, à dire qu'on n'avait pas le droit d'y être, il fallait dégager, il fallait pas prendre de photos. Enfin voilà, on s'est quand même fait mettre dehors de la place, il faut bien le dire, pendant que les autres continuaient à prier. On a interpellé, comme tu le disais, les représentants de la préfecture, les flics, quand on allait leur demander ce qui allait se passer. Donc après, puisque moi j'ai été quand même très embêtée de voir que ces hommes armés et donc tenant leur casque de moto n'ont pas été raccompagnés à l'extérieur du quartier. On les a laissés partir tout seuls, tranquillou. Alors donc, certes, on les suivait, les flics les suivaient,
à peine. Et du coup, ils les ont laissés.
Ils les ont pas mis en nasse, comme ils l'ont pu le faire avec nous, et ils les ont laissés partir.
Et ils les ont laissés revenir.
Et nous, on a posé la question aux autorités sur place en leur demandant qu'est-ce que vous avez prévu. Donc comme on le disait tout à l'heure, rien, c'est ce qu'on a. On n'a pas voulu nous répondre, que de toute façon ils avaient l'habitude, et ben il s'est passé ce qui devait se passer.
Ils sont revenus et ils ont attaqué la plume noire alors qu'il n'y avait qu'une petite dizaine de personnes à l'intérieur, donc la librairie rue Diderot. Ils l'ont attaqué, alors ils ont pu, il y a eu quelques blessés légers, ils ont pu tenir en baissant les rideaux de fer sans se faire massacrer par cette horde de néo-nazis et de fachos et de cathos qui les ont attaqués. Mais ça s'est joué quand même de peu, que ça se passe encore plus mal. Donc voilà. Alors bon, après, les flics sont. Du coup, là, il y a une police municipale qui est passée et qui a constaté les dégâts. La maire du premier arrondissement et d'autres élus sont arrivés. Elle a même décidé de porter plainte au tribunal administratif, parce qu'effectivement, elle peut le faire, et parce que c'est bien le préfet et ses représentants sur place qui ont, laissé la manif illégale se dérouler, et qui ont permis, par leur inaction, aux militants d'extrême droite catholique de revenir casser et d'agresser, parce que finalement, il n'y a pas eu de mort, mais il y avait une volonté de tout péter, voire de tuer les gens, faut quand même le dire.
Oui, oui, hein, puisque c'est des bouteilles de verre, des pierres, des outils métalliques, c'est tout ça hein, qui a été lancé sur les occupants de la Plume Noire. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que quand tout ça, ça a commencé, je vous le disais, c'était vers 2h30, cette attaque, c'était juste avant 18h. Donc ils sont pas revenus en pleine nuit, les fascistes, comme on a l'habitude de le subir, malheureusement. Ils sont revenus tout de suite. Donc ça veut dire qu'en fait...
Une heure après, quoi.
Les flics, ouais. On avait... Oui, effectivement, une heure après qu'on ait quitté la place.
Les flics, on n'avait rien à faire.
Rien à taper. Bon, peut-être que ça les arrangeait aussi, à les savoir.
A priori, chaque fois qu'on discutait avec les flics, ils tenaient des discours d'extrême droite eux-mêmes. Donc c'était assez logique finalement ce qui s'est passé. Alors on l'a déjà vu des dizaines et des centaines de fois ces 30 dernières années. Hein. Donc c'est pas surprenant. C'est toujours triste de voir que les flics prennent parti du côté de l'extrême droite. Mais c'est pas surprenant non plus, malheureusement.
Alors il y a 3 plaintes hein, qui ont été déposées cette semaine pour agression. On verra ce que le procureur de la République va faire, puisque mardi matin, la préfecture du Rhône a annoncé une procédure judiciaire engagée contre les organisateurs de cette manifestation interdite. Donc ça, c'est un peu pour la partie judiciaire. Maintenant, il y a un appel à souscription hein, qui a été lancé par la Plume Noire pour récupérer un peu des sous,
d'argent.
Mais c'est aussi un acte de solidarité, puisque même si la Plume Noire est assurée, hein, il y a toujours une franchise, il y a toujours des choses un peu à payer, même quand il y a une prise en charge. C'est aussi un moyen de se rapprocher un petit peu de la Plume Noire et puis de s'intéresser au quartier si jamais vous l'habitiez et que vous n'étiez pas au courant par exemple. Vous pouvez venir samedi, on vous en parle dès maintenant, c'est à 15h Place Colbert, il y a un rassemblement populaire. Voilà, c'est aussi un moyen de se rappeler que le quartier, on ne leur laissera pas. Hein. Non pas Sarah, il n'y a pas moyen. Je voudrais aussi rappeler qu'en 97, la Plume avait déjà cramé.
Était incendiée par les fachos.
Ouais, à l'époque, la Plume était rue Pierre Blanc, c'était déjà bien triste, on était déjà bien en colère à l'époque. Voilà, c'est bon, ça nous rappelle aussi que quand même on arrive même à pas être très très nombreux, mais quand même à être quelques-uns et quelques-unes, on peut aussi être là et résister. Et même si on n'a pas pu empêcher la tenue de ce rassemblement, nous on était quand même là, d'autres gens étaient là, c'était bien et il faut faire face.
Ouais. Oui, ça notait, c'est les gens, ces habitants du quartier sont venus en entendant ce qui se passait, hein, en étant.
Ouais, il y avait beaucoup de messages aussi qui ont circulé, donc ça a permis aussi de nous tenir tous au courant.
Alors tu vas nous parler de...
Non, je pense que tu peux passer tout de suite sur les religions.
Ah bah, ouais. Du coup, je vais rester dans les réactionnaires. Sauf la dernière info sur les religions, qui est presque progressiste. Donc, on va commencer par Jean-Frédéric Poisson. Qui s'est fait laminer à la primaire de la droite et du centre.
Et il a fait mieux que Copé, hein, quand même, je te rappelle.
Hein. Ouais. Mais voilà. Donc lui, qui est le plus proche de ceux qui ont manifesté pour se réapproprier cette église, qui n'est plus une église, je vais arrêter de dire ça, ce bâtiment, anciennement une église, que l'église n'est plus sacralisée, elle a été désacralisée en 99, et que le diocèse n'en veut pas du tout, d'ailleurs. Donc lui, il a dit quoi? Je cite « Nous devons inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution pour que ce soit clair pour tout le monde. Libre alors à ceux qui ne s'y retrouvent pas de quitter le pays. » C'est pas mal ce qu'il a dit. Bon bref, toi et moi, on se retrouve pas dans les valeurs catholiques, dans les racines chrétiennes. Du coup, on va être obligé de se barrer de France si jamais Monsieur Jean-Frédéric Poisson y gagne. Heureusement, il s'est fait laminer, donc il gagne pas. Par contre, Fillon a à peu près les mêmes idées, donc c'est pas gagné. Mais c'est quand même incroyable d'oser mettre ça, de dire que ceux qui se retrouvent pas dans les valeurs chrétiennes doivent quitter le pays. Ben non, je suis désolé. Moi, je suis plus proche du chant des canuts quand même que de la prière qu'ils étaient en train de faire face au chant des canuts samedi dernier. Ses petits amis, les petits amis de Jean-Frédéric Poisson. On va passer en Israël sur une info que tu as déjà faite et qui est revenue au cœur de l'actualité, puisque des graffitis et des menaces de mort ont été découverts dans une synagogue libérale en Israël. Alors, libérale, c'est pas dans le sens économique, mais dans le sens des mœurs.
Oui, des mœurs.
Vraisemblablement l'œuvre de personnes d'extrême droite, encore une fois, qui s'opposent à l'idée d'un espace mixte sur le mur des Lamentations, hein, tu en avais parlé. Donc les médias israéliens ont diffusé les graffitis et les menaces. Donc sur les menaces, on voit un couteau qui est posé sur des enveloppes avec le nom de 3 personnalités du judaïsme libéral, dont Anat Hoffman, la présidente de l'organisation Les Femmes du Mur, hein, donc celle qui milite notamment pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, donc notamment le droit de prier et de lire la Torah devant le mur des Lamentations à Jérusalem. Donc voilà, ils ont envoyé un couteau dans une enveloppe avec son nom notamment. Ça laisse entendre que voilà, on va te tuer quoi, on va te faire la peau. C'est ça dont il est question. Il y a eu des graffitis aussi, inspirés des textes, enfin de la Bible, de l'Ancien Testament très exactement, de la Torah si vous voulez, sur les murs du bâtiment. Donc qui incite pas à l'amour, on peut le dire. Il y a pas beaucoup d'amour dans l'Ancien Testament, ceci dit. C'est inquiétant. Alors il y a du coup une étude sur les religieux en Israël. Ils sont plutôt du côté libéral ou du côté réactionnaire. Et ben en fait, le dernier sondage montre qu'il y a que 4% d'Israéliens juifs qui se réclament du mouvement libéral. Bon bah les autres, ils sont plutôt du mouvement réactionnaire. C'est pas gagné. Donc voilà, il y a toujours cette opposition des ultra-orthodoxes à la présence d'une zone mixte. Et que les femmes aient le droit de lire la Torah devant le mur des Lamentations. Il y a eu une autorisation du gouvernement, mais comme le mur des Lamentations est géré par le rabbinat orthodoxe, elles n'y ont toujours pas accès. C'est quand même scandaleux. Même si on se fout de la religion, c'est voilà, une vraie discrimination au sein même d'une religion. Hein. Enfin bon, ce sont les femmes dans les religions monothéistes, hein, elles en prennent plein la gueule. Il n'y a pas de raison que ça évolue. Hein. Même celles qui se battent, elles n'y arrivent pas bien. Hein. On va parler d'homosexualité maintenant avec les Anglicans du Sud. Alors les Anglicans du Sud, ça regroupe 24 églises d'Afrique et d'Asie. Et une église des États-Unis, alors qui ont eu des positions un peu ambiguës des fois sur l'homosexualité, parce qu'ils ont, il y a eu des bénédictions de couples du même sexe, etc. Là, il y avait une sorte de congrès. Ils étaient réunis au Caire, très exactement. C'est leur 6e conférence, puisque ça n'existe pas depuis très longtemps, depuis les années 90. Et ils ont réaffirmé ce qu'ils pensaient de l'homosexualité. Alors, même si le texte n'est pas du tout agressif, bah ça reste, il reste un fond homophobe lié au texte hein, de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui est ouvertement homophobe, puisque le résumé, la déclaration rappelle que le dessein du Créateur, donc de leur Dieu, a donné vie à l'homme et à la femme. Ça jusque là, bon. C'est leur croyance. Et ce texte rappelle la dignité humaine de chaque individu et la validité pour chaque individu du message d'espérance. Jusqu'ici, tout va bien. Et ensuite, le texte va stigmatiser l'homosexualité, puisque le texte va rappeler que l'homosexualité fait partie des comportements contraires au dessein divin, comme la jalousie, la haine, la cupidité, etc. Donc quand vous êtes homosexuel, c'est comme quand vous êtes plein de haine et que vous voulez tuer les gens, en gros, ça laisse entendre ça. Bon, voilà, ils ont rappelé aussi d'ailleurs que pour eux, le mariage et l'image du mariage telle que ces chrétiens l'imaginent, est valable pour les chrétiens, mais aussi pour les autres. Hein. Alors les autres, vous vous comportez comme des chrétiens, s'il vous plaît, dans le mariage. Donc voilà, ça rappelle que même si on avait l'impression qu'ils étaient un peu moins fermés que les autres, en se servant des textes, ils disent « Regardez, non, dans la Bible, c'est comme ça. On est donc d'accord pour dire que l'homosexualité, c'est pas bien. » Et puis pour terminer sur cette histoire de religion, j'ai trouvé des religieux altermondialistes. Et oui, un peu comme la décroissance hein, qu'on connaît, où il y a certains croyants qui sont dans la décroissance. Là, c'est pareil, c'est un collectif qui s'appelle Christinet, un collectif altermondialiste chrétien suisse, qui appelle à se mobiliser pour un truc très bien, du coup, la journée sans achat, qui est le 26 novembre. Donc, c'est une journée qui marche pas bien chez nous, et qui marche, je sais pas, nulle part bien, d'ailleurs, malheureusement. Et eux, ils disent, s'il faut continuer, ils appellent à ça depuis 2003. C'est un jour où, il faut être créatif, faire de l'art, se rencontrer, discuter, se recueillir aussi. Forcément, c'est des chrétiens, hein. Mais voilà, c'est à noter, pour pas être que négatif sur ces religions qui nous pourrissent la vie quand même, il faut le dire, qui nous briment au niveau de la liberté, que j'ai trouvé, en fouillant très très loin dans l'actualité, j'ai trouvé un collectif progressiste, mais quand même chrétien. Donc, par contre, je sais pas leur position sur l'homosexualité, j'ai pas trouvé, mais au moins sur la consommation, ils ont une position un peu intéressante.
Alors écoute, je propose qu'on se détende un peu, excusez-moi, on va reparler à plastique cette semaine. Parce que quand même, ces plasticiens, ils nous font bien marrer. Mais cette semaine, on va parler de Jeff Koons.
Ah, on l'aime bien, lui.
Oui, vous savez, c'est celui qui fait les trucs gonflables. puis il y avait une exposition assez polémique au château de Versailles en 2008, et puis en 2014 il y a eu une rétrospective au centre Pompidou, c'est le record de fréquentation, 650 000 45 visiteurs, c'est un truc incroyable. Alors lundi, à la résidence de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Paris, Jeff Koons a annoncé son intention de faire don à la capitale et aux Français d'une sculpture intitulée Bouquet of Tulips, une œuvre monumentale, originale, qui se veut un geste d'amitié entre le peuple américain et le peuple français, je cite, et un symbole du souvenir, je cite toujours, après les attentats du 13 novembre. Alors,
C'est sympa quand même.
Oui, tout jusque-là, tout va bien. Vous sentez qu'il va y avoir une chute, hein, quand même. Je préfère vous le dire tout de suite, si vous êtes un peu cardiaque.
Il y a un piège dans son cadeau.
Ouais, il y a un peu un piège. Alors, Jeff Koons décrit cette œuvre comme un symbole de souvenir, d'optimisme et de rétablissement. L'œuvre fait 11,66 m de haut avec le socle ferait, hein, parce que pour l'instant c'est un projet qui aurait démarré a priori en Allemagne. 8,30 m de large, 10 m de profondeur, et tout cela va peser 33 tonnes. C'est une œuvre en bronze.
Oui, mais c'est Jeff Koons.
Acier, aluminium.
Il fait des trucs immenses. Il peut pas faire des trucs petits, en fait.
Non. Alors ça, là, ça va représenter une main d'une jeune femme assez réaliste qui tiendra des tulipes gonflables et multicolores symbolisant l'acte d'offrir. Les couleurs sont un hommage aux fleurs impressionnistes de Monet et aux fleurs rococo de François Boucher et de Fragonard. La main évoque, elle, la statue de la liberté, tout un symbole, hein, donc. Alors, si l'architecte des monuments historiques donne son feu vert, la sculpture devrait être installée d'ici à l'été 2017, devant le musée d'art moderne de la ville de Paris et le palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement à Paris. Alors, à ce grand raout, Madame Hidalgo était très, 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 très heureuse. Hein. La maire de Paris sautillait de partout. Alors, il faut quand même savoir que ni les riverains, ni les deux directeurs des deux musées dont je viens de vous parler, Fabrice Ergotte et Jean Deloisy, n'ont été consultés. A priori, d'après ce que j'ai pu en lire, les architectes des bâtiments de France n'ont pas été non plus consultés sur son installation sur cette esplanade entre les deux institutions. Il faut dire que la transaction s'est faite directement entre Madame l'ambassadrice et Madame la maire. Direct, vous voyez, il n'y a pas eu d'intermédiaire, elles se sont réunies un jour. Alors c'est une idée qui est venue de Jen D. Hartley, cette ambassadrice, femme d'affaires, diplomate démocrate, qui a été nommée par Barack Obama. Elle a proposé en février dernier à Jeff Koons de créer un cadeau symbolique à la France suite aux attentats. Alors oui, je vous le disais, il y a une petite chute quand même, parce que la fabrication et l'installation de sa sculpture fleurie sont estimées à 3 millions d'euros. Donc c'est pas juste gratuit, si vous voulez. Hein, c'est sorti nulle part.
Lui, il prend pas de droit d'auteur, du coup, sur son œuvre, c'est ça? Alors, et par contre, tout le reste...
Mais il va falloir payer hein, tout ça, hein, les matériaux, le déplacement, l'installation, ça, ouais. Tout ça, tout ça. Alors, ces deux anciens marchands d'art, Emmanuel et Jérôme de Moirmont, qui vont coordonner la production de l'œuvre, ils se sont spécialisés dans le suivi et la production, ils vont coordonner aussi la recherche du mécénat privé à l'international. Les fonds vont être récupérés par le Fonds pour Paris. En tout cas, James Koons, lui, il sort quand même un peu gagnant hein, de tout ça, puisqu'il faut quand même le dire, ce don va permettre d'augmenter encore une fois la cote de Jeff Koons. C'est quand même un des artistes, c'est l'artiste le plus cher au monde. Son Balloon Dog, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était orange. En 2013, il s'est vendu à 58 400 000 dollars chez Christie's. Oui. Il avait un Popeye en inox poli aussi à 28 millions de dollars. Donc, pas des petites sommes quand même. Donc, Jeff Koons, c'est aussi un stratège. Hein. Il fait partie de ces plasticiens contemporains qui, quand même... pour de la thune, on va le dire comme ça. Alors après, il faut se rendre compte aussi que, évidemment, ça fait causer cette installation, mais aujourd'hui, il n'y a qu'un seul unique Koons dans les collections publiques. C'est le Frac Aquitaine qui le détient, ce Koons. C'est Jean-Louis Froment, fondateur et ancien directeur du CAPC de Bordeaux, qui, dans les années 80, a acheté l'œuvre. Ça a été un précurseur, il faut bien le dire. Maintenant, la France, les musées français, en tout cas, n'ont plus aucun moyen pour acheter un Jeff Koons. Donc, le pari de Madame Madame la maire de Paris, c'est peut-être de se dire que d'avoir une œuvre en plein air, ça va rattraper le fait qu'on n'en est pas dans les musées. Je sais pas, je me suis posé un peu la question, mais en tout cas, il y en a un autre qui est content et qui était présent lundi à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris. C'est Monsieur François Pinault. Monsieur Pinault, je vous rappelle, il est un collectionneur et il a dans sa jolie petite collection pas mal de Kunz. Donc il est tout content parce que plus c'est la cote de Jeff elle monte, plus François il a une belle collection et donc il a du pognon qu'il va pouvoir bientôt récupérer en revendant évidemment du Jeff Kunz. Voilà, voilà, donc c'était le don de Jeff Kunz à la France.
Qui va coûter 3 millions d'euros.
Ah bah, après, c'est du mécénat privé, hein. Les gens ou donnent pas. Ouais. Mais voilà, c'est quand même aussi une manière de décider sans mettre des autorités compétentes en la matière dans l'histoire. C'est écarter un peu tout le monde, c'est deux femmes qui ont décidé pour les autres. Finalement, elles ont eu le pouvoir. Voilà. Oh, incroyable.
Ouais. Alors, quelques petites infos environnementales de manière brève. Hier, les députés ont voté à l'unanimité l'inscription de 40% des produits locaux et de saison, dont 20% de produits bio, dans la restauration collective d'ici 2020. Alors, ça a failli pas passer, hein. Il y avait eu de l'opposition, il y avait des élus qui voulaient pas le faire, etc. Donc, c'est plutôt positif. Alors, on sait qu'on en est loin. Hein. On se rappelle du film sur la cantine de Barjac, si je me trompe pas, qui est 100% bio. Et en plus, c'est super bon, hein, ce qu'il faut en manger. Donc, on est très loin de l'idéal qu'on pourrait avoir de cantine qui soit 100% produits locaux, 100% bio. Hein. Alors, c'est techniquement totalement possible, bien évidemment, puisqu'il y a plusieurs, enfin, il y a de nombreuses communes, hein, qui ont montré que c'était possible. Mais il faut de la volonté. En plus, ça a un effet de levier, comme on dit dans le monde économique, c'est que ça redéveloppe l'agriculture locale, enfin, notamment le maraîchage. Hein. Donc, c'est un truc très positif. Sur un département, sur une région, sur une ville, enfin autour de la ville, enfin, voilà, c'est plutôt positif. Bon, c'est déjà un petit pas pour l'humanité, et, enfin en tout cas pour les régions françaises, en attendant que ça bascule complètement. Mais on n'en est pas là, voilà, bon, c'est un petit progrès. Alors, autre chose qui est énormément symbolique et qui a eu lieu à Bruxelles, donc juste à côté de chez nous, chez les Belges, il y a eu une phase de test, hein, de panneaux qui ont été mis au compte-gouttes dans la région bruxelloise pour des panneaux qui s'appellent le B22, le B23. Il y en a un qui c'est le tourne à droite pour les vélos. Donc les vélos n'ont plus l'obligation de s'arrêter au feu quand ils tournent à droite. Ils peuvent tourner directement à droite. Il y a ça à Lyon, hein, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et un tout droit. Alors ça, c'est carrément, ça n'existe pas chez nous. Hein. Un tout droit. Donc les vélos ont le droit de griller le feu si il n'y a pas de risque, hein, bien évidemment. Alors, après cette expérimentation, la région bruxelloise a franchi un pas supplémentaire via un arrêté ministériel en obligeant cette mesure à se généraliser. Toutes les études ont montré qu'il n'y a pas de risque supplémentaire et ça incite à développer le vélo. Parce qu'on sait que quand on fait du vélo, le plus dur, c'est de redémarrer quand on s'est arrêté, parce qu'il faut un effort énorme pour mettre en œuvre la machinerie mécanique. Alors que quand on roule, si on passe un carrefour tout doucement, parce qu'en général, quand on est cycliste, on n'est pas complètement débile, on sait que si on se prend une voiture, on est mort. Oui, j'ai pas tous, d'accord, tu fais
non,
des mouvements.
Non, c'est parce que je secoue la tête, mais parfois, bon.
Mais bref, voilà. Ce qui... autorise donc le passage au feu rouge. Alors maintenant, c'est devenu la règle. Donc s'il n'y a rien de précisé, d'office, les cyclistes ont le droit de griller les feux tout droit ou en tournant à droite, mais pas en tournant à gauche. Parce qu'en tournant à gauche, on croise les voitures qui sont en face et la sécurité routière, enfin belge, enfin les experts estiment que là, le danger est trop important puisqu'il faut couper plusieurs voies de circulation, etc. Alors c'est pas, il y a des exceptions. Hein. Quand les carrefours sont dangereux, sont trop grands, ils peuvent mettre des panneaux qui disent c'est pas autorisé, parce qu'effectivement il ne faut pas non plus que ça soit dangereux pour le cycliste, mais c'est quand même un énorme progrès qu'on n'imagine même pas chez nous. Enfin, la région bruxelloise est une région cycliste, alors que Lyon est plutôt une ville encore anti-cycliste, hein, y a plus de voitures que de vélo, il y a plus d'aménagement voiture que d'aménagement vélo, il y a plus de parking voiture que de parking vélo, etc. On pourrait décliner ça sur des millions de phrases, des millions de mots, des millions de situations. Même si la situation progresse à Lyon, on est encore loin de ce qui peut se passer en Belgique et à Bruxelles notamment. Suite de l'info que j'avais donnée sur le Greenpeace la semaine dernière et le rapport qu'ils avaient sorti comme quoi EDF aurait et sous-estimerait en fait le coût du démantèlement des centrales nucléaires. Greenpeace a porté plainte donc contre EDF et son PDG Jean-Bernard Lévy pour, je cite, publication de bilans inexacts et diffusion d'informations trompeuses. Le but, c'est d'obliger EDF à se mettre la nez dans le caca, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire à avouer que peut-être qu'ils sous-estiment le coût du démantèlement. On verra ce que fera la justice, si la plainte est acceptée et si ça va un peu plus loin. Et puis, dernière petite info très brève environnementale, on a les chiffres qui ont été donnés aujourd'hui suite à une grosse étude. Grosso modo, 85% des habitants des villes d'Europe respire un air pourri. Ça, c'est la conclusion de l'étude. Alors après, c'est sur les particules, c'est notamment dans les villes, c'est la population urbaine qui est touchée. Les grosses villes sont beaucoup plus touchées que les petites villes, bien évidemment. Enfin voilà, grosso modo, on savait déjà, l'air en ville est pollué. Bien évidemment, c'est les particules, les petites particules, particules fines qui sont mises en avant, notamment dues au transport automobile et pas au chauffage, contrairement à la propagande habituelle, puisque ça concerne notamment l'été, dans lequel il n'y a pas de chauffage. Donc voilà, c'était ma dernière petite info environnementale. Tu voulais peut-être revenir sur quelque chose, Delphine ?
Il nous reste 5 petites minutes pour faire le lien avec la petite cuillère, l'émission qui va suivre après ce Canu Info. Je voudrais juste donner des nouvelles de Asli Erdogan, cette romancière et essayiste qui avait été arrêtée le 19 août dernier pour ses chroniques dans Özgür Gündem, journal libre. C'est un journal pro-kurde. Hier, on apprend dans la joie qu'elle est libérée, enfin, en tout cas qu'elle va avoir droit à une liberté conditionnelle dans l'attente de son procès. Je vous rappelle qu'elle risque la prison à perpétuité. Ça, c'était vers 14h30, donc hier. Et puis cette joie, ben, on l'a rentrée. Hein. On a eu d'abord l'incompréhension, puis après, il faut bien dire la colère, puisque vers 16h, on a appris qu'elle allait rester en détention, puisqu'il y a effectivement eu un premier tribunal qui a décidé de la mettre en liberté conditionnelle dans l'attente de son procès, ce que je viens de vous dire, sauf qu'il y a un deuxième tribunal qui l'attaque sur une deuxième partie, et ce qui fait que, ben, en fait, elle n'a jamais vu le jour, hein. Elle est restée en prison. Entre 14h30 et 16h, ils n'ont pas bien eu le temps d'agir. A priori, elle n'a même pas su d'ailleurs que tout ça s'était passé. Elle n'est pas seule, hein, puisque Netmi Alper, qui est une traductrice, chroniqueuse et philosophe, avait été arrêtée le 31 août. Elle aussi, on a cru qu'elle allait être libérée en conditionnel aujourd'hui. Et ben, foup, là aussi, fausse joie, puisqu'on a appris qu'elle ne serait pas non plus libérée, exactement pour les mêmes faits qu'Asli Erdogan. Elles sont quand même accusées d'appartenir à une organisation terroriste, d'avoir diffusé de la propagande terroriste, d'avoir voulu perturber l'unité du pays. Voilà, c'est ça, hein, la Turquie, de 14h30 à 16h, tout peut se passer. Voilà, je ne vais pas en dire plus. C'est bien malheureux.
Ouais, l'Union européenne qui aujourd'hui a décidé de suspendre pour l'instant les tractations, ouais, les négociations tout sur l'adhésion de la Turquie. De toute façon, quand on regarde les critères que tout pays doit respecter pour adhérer à l'Union européenne, la Turquie n'en respecte quasiment plus aucun. Donc, de toute façon,
oui, mais monsieur Erdogan a dit que de toute façon, ça n'avait aucune valeur ses yeux.
Exactement. Alors, petit agenda, puisqu'il nous reste 2 minutes. Donc, on rappelle, demain soir à 19h, place Bellecour, la manif non mixte. Féminine, contre les violences féminines. Il y a un gros, il y a pas mal de choses qui sont faites autour de ça. Il y a Brisons le silence aussi contre les violences conjugales, le 12e festival contre les violences conjugales qui a lieu en ce moment dans la région lyonnaise. Donc là, c'est la manif, c'est une manif contre tout ce que peuvent subir les femmes, hein, que ce soit le soir, la nuit, le jour, à la maison ou ailleurs. Et donc ils arrivent à 20h, place de la Comédie, et là ça devient non mixte. Tout le monde peut venir soutenir le droit des femmes. Devient mixte, oui, excuse-moi, je me suis trompé. Donc on a bien compris, non mixte au départ à 19h et mixte à l'arrivée. Ensuite, c'est samedi, on va passer au 25 novembre. Non, c'est toujours vendredi, je me trompe là, il me reste 45 secondes pour pas me tromper. À 18h30, c'est Claude Villard qui vient parler de l'agriculture et faire un bilan de ce qui s'est passé depuis la dernière guerre jusqu'à aujourd'hui, pourquoi c'est devenu cette agriculture industrielle pourrie qu'on connaît. C'est au bar Les Clameurs, dans le 7e, 23 rue d'Aguesseau, dans le cadre du festival libertaire du mois de novembre. Et toujours dans le cadre de ce festival, à 19h, à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, un débat sur le fascisme, les fascistes. Ben, ça tombe bien.
C'est d'actu.
Ça tombe bien. bien parce qu'on les a vus samedi dernier et que samedi prochain, on rappelle, la Plume Noire appelle un rassemblement Place Colbert à 15h contre tous les fascistes.
Eh ben, on se retrouve au mois de décembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne soirée avec la petite cuillère. Ciao, ciao.
Bye, bye.